Chaque jour des petits prix. Et jusqu'à samedi, la burrata dépouille de 150 grammes est à seulement 2,49€. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais !
Le meilleur marché.
Soit 16,60€ le kilo, pourcentage de matière grasse précisé sur le lieu de vente, au lait de vache, élaboré en Italie. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Europe 1 Soir Weekend.
18h-20h, Jacques Serret.
À 19h30, nous fêterons les 75 ans de Paris Match avec Patrick Mahé, figure incontournable de Match, auteur de la légende de Paris Match qui sort aujourd'hui en librairie aux éditions Plomb. Mais avant ça, il est 19h sur Europe 1. Bonsoir Cédric Chasseur.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce vendredi 26 avril, le chaos à Sciences Po, établissement bloqué toute la journée par des étudiants pro-palestiniens installés dans la rue après un moment de tension cet après-midi avec l'arrivée de manifestants pro-israéliens. C'est un autre face-à-face qui se prépare avec la police qui prépare l'évacuation de la voie publique.
Quelle note pour l'économie française? Deux agences de notation doivent évaluer la bonne ou la mauvaise santé financière du pays. L'explosion de la dette fait craindre une dégradation.
10 jours après avoir été allumée, la flamme olympique est officiellement entre les mains de la délégation française de Paris 2024. Cérémonie cet après-midi à Athènes. La torche doit désormais embarquer sur le Bélème pour prendre la direction de Marseille, où c'est Florent Manaudou qui sera le premier porteur de la flamme le 8 mai.
La tendance météo avec vous, Mickaël Poteau. Bonsoir,
oui.
Mickaël.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Eh bien, c'est un week-end bien capricieux qui commence demain avec de fortes pluies dans l'ouest, dans les Pyrénées et dans les Cévennes. Des nuages partout ailleurs avec des températures en hausse.
Bulletin complet à la fin de ce journal.
Europe 1 Soir Weekend.
La tension est montée d'un cran cet après-midi à Sciences Po Paris, une université bloquée depuis hier soir par une mobilisation pro-palestinienne.
Plusieurs dizaines d'étudiants ont d'abord investi un bâtiment de l'établissement avant de se positionner devant les portes de Sciences Po, dans la rue. Cet après-midi, des manifestants pro-israéliens sont venus se confronter à eux. Des tensions, mais pas de violence physique. Bonsoir Guillaume Dominguez.
Bonsoir.
Vous êtes pour Europe 1 devant Sciences Po. Désormais, les militants pro-palestiniens sont encadrés par les forces de l'ordre. Les CRS sont arrivés sur place et le préfet a demandé l'évacuation de la voie publique.
Et oui, les CRS viennent de se mettre en position à l'instant, casque sur la tête, bouclier à la main. Trois lignes font face à présent aux étudiants qui bloquent toujours le campus de Sciences Politiques. Le préfet de police de Paris a ordonné l'évacuation de la rue Saint-Guillaume pour trouble à l'ordre public un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Mais la direction de Sciences Po a tenté une ultime négociation avec les étudiants pour leur demander de quitter les lieux de leur propre initiative. Alors, pour le moment, aucun ordre n'a été donné, mais l'évacuation pourrait avoir lieu d'un instant à l'autre. Les manifestations, eux, sont toujours assis, drapeau à la main, visage masqué. Ils semblent bien décidés à ne pas bouger. Les étudiants présents à l'intérieur du bâtiment ont fait savoir que, un peu plus tôt dans l'après-midi, qu'ils sont décidés à bloquer l'université et y rester tout le week-end si nécessaire.
Guillaume Dominguez en direct de Sciences Po Paris pour Europe 1. La direction de l'université condamne fermement ces actions étudiantes. De son côté, la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, dénonce les méthodes employées, parlant de lignes rouges franchies.
Sylvie Retailleau qui s'attaque également directement à Rima Hassan sur les réseaux sociaux.
Elle parle d'irresponsabilité après l'appel au soulèvement de la candidate aux européennes, 7e sur la liste de la France insoumise, Alexis de la Fontaine. Rima Hassan a d'ailleurs ouvert le bal des visites de soutien des élus d'extrême gauche aux étudiants qui bloquent l'université aujourd'hui.
Oui, Rima Hassan est accueillie comme une rockstar devant le blocus de Sciences Po, accompagnée par plusieurs députés de la France Insoumise. Elle tente d'encourager le mouvement lancé par les étudiants pro-palestiniens. Je vous propose de l'écouter.
Je crois que c'est un symbole qui est extrêmement fort. C'est inédit puisque ce sont des espaces de résonance à ce qui se passe dans notre société. Et donc, c'est très très important d'être à l'écoute de ce qui est en train de se jouer et des messages que portent les étudiants ici.
Officiellement, Rima Hassan vient porter le message des étudiants, mais en réalité, la France Insoumise essaye depuis des semaines d'utiliser la situation à Gaza pour mobiliser les électeurs musulmans le 9 juin. Un électorat très favorable à Jean-Luc Mélenchon, mais qui a tendance à s'abstenir lors des élections européennes. Alors après plusieurs provocations médiatiques, la France Insoumise tente maintenant d'importer le conflit via les universités, comme aux États-Unis, et d'autres facultés en dehors de Paris pourraient suivre le mouvement.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. À Lille, l'association des parents d'élèves du lycée musulman Averroès porte plainte pour discrimination contre le préfet du Nord. En décembre dernier, il avait résilié le contrat liant l'État à l'établissement, mettant donc fin aux subventions à partir de la rentrée prochaine. Décision motivée par des enseignements contraires aux valeurs de la République, selon lui.
Fitch et Moody's vont-elles baisser la note de la France ?
C'est ce soir, autour de 22h, que ces deux agences de notation doivent donner leur avis sur la santé financière du pays. Alors que la dette française dépasse les 3000 milliards d'euros, il y a donc des raisons de ne pas être totalement optimiste. Sauf que Alexandre Chauveau, une dégradation de la note pourrait avoir des conséquences politiques pour le gouvernement.
Oui, cela viendrait s'ajouter à une série de mauvaises nouvelles sur le plan budgétaire, des prévisions de déficit en deçà de la réalité et une croissance plus faible que prévu. Conséquence, des milliards d'euros d'économies à réaliser, et ce, alors que l'absence de majorité absolue à l'Assemblée contraint le gouvernement à attendre l'automne prochain pour rectifier le tir. L'hypothèse d'un budget rectificatif a en effet été enterrée par Emmanuel Macron en personne, qui ne souhaitait pas s'exposer à une potentielle motion de censure des Républicains. La baisse de la note de la France par les agences de notation interviendrait également en pleine campagne européenne, avec un électorat macroniste composé en partie de retraités et de CSP+, attachés à la crédibilité économique de la France. Ce qui était jusqu'ici l'un des points forts d'Emmanuel Macron, à qui l'on attribue un certain dynamisme économique et la baisse du chômage, est donc en train de devenir un nouvel angle d'attaque pour les oppositions.
Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Les agences de notation, objet de notre invitation à l'économiste Norbert Gaillard, tout à l'heure à 19h15. Il est 19h06 sur Europe 1. C'est une agression qui avait suscité l'émoi national, celle d'un brancardier aux urgences de Châlons en Vendée.
C'était le 6 avril dernier sur le parking de l'établissement de santé. Un homme de 23 ans perd ses nerfs car il estime que son père et son cousin brûlés n'étaient pas pris en charge assez vite selon lui. Il frappe un coup de poing sur le brancardier qui sortait déjeuner, le blessant gravement. Le suspect en détention provisoire était jugé en comparution immédiate ce vendredi devant le tribunal des Sables-d'Olonne. Il a écopé d'une sanction exemplaire. 4 ans de prison, dont 2 en ferme. Charles Guyard.
C'est très intéressant la manière dont le tribunal a voulu engager le procès en diffusant ces images.
Et ces images extraites de la vidéosurveillance font froid dans le dos. On y voit un homme asséner un violent coup derrière la tête de Guy, un brancardier, son avocat, Maître Boézek.
Ces images sont très claires sur la violence, mais surtout par le timing, pour mettre à néant toute possibilité de broder un autre narratif.
En effet, car au-delà des images, il y a surtout la chronologie qui vient balayer le défaut de prise en charge avancé par la défense. Car entre l'arrivée des blessés aux urgences et l'agression du brancardier, 3 minutes seulement se sont écoulés. À la barre, le prévenu regrette son geste, mais évoque maintenant des propos stigmatisant la communauté des gens du voyage, ce que de nombreux témoins contestent. En le condamnant, son avocat Maître Riffaud considère que le tribunal l'a érigé en symbole des violences commises à l'hôpital.
Moi, je veux pas qu'il soit considéré comme bouc émissaire pour toute l'incivilité qu'il y a dans les différents établissements de soins.
Dans sa plaidoirie, l'avocat des parties civiles avait lui rappelé ce chiffre issu d'un rapport de l'Observatoire des violences en milieu de santé. En 2020 et 2021, près de 70 000 atteintes aux personnes et aux biens ont été enregistrées en France, dans un service de soins.
Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest. La mairie de Gravelines, dans le Nord, visée par une cyberattaque, la commune va devoir travailler hors réseau pendant une semaine. On ne sait pas si des données personnelles ont été volées. La municipalité a déposé plainte. La vaccination contre la méningite élargie à partir du début de l'année 2025. Jusqu'ici, elle était obligatoire chez les nourrissons seulement pour une famille de bactéries, les méningocoques C. Elle le sera dorénavant aussi pour les enfants de moins de 1 an contre les méningocoques A, B, W et Y, conséquence d'un rebond de ces infections graves.
Et puis Cédric, la France retrouve sa couronne mondiale. Le pays est redevenu le tout premier fournisseur de vin.
Oui, selon les chiffres révélés par l'Organisation internationale du vin, mais ce retour en tête du classement est surtout la conséquence d'une baisse des productions partout ailleurs dans le monde, et notamment en Italie et en Espagne, moins 10%. Le monde viticole n'a jamais produit aussi peu de vin depuis 1961. Aurélien Fleureau, comment expliquer cette tendance ?
Oui, la France s'en sort mieux que ses voisins avec une hausse de 4% de la production l'an dernier, mais elle est évidemment, elle aussi, régulièrement touchée par de multiples intempéries, comme le rappelle Jean-Marie Fabre, le président des vignerons indépendants, qui demande la mise en place d'un plan Marshall pour leur permettre de mieux anticiper.
Et il faut mettre en œuvre tous les outils de protection contre le gel, contre la grêle, contre la tempête, contre la sécheresse, afin de ne plus avoir ces impacts massifs, mais un impact minimisé par les outils de prévention. Et moi, j'encourage et j'appelle le gouvernement français à ne plus intervenir a posteriori après les aléas pour essayer de compenser ou de tenir à flot les entreprises qui ont été percutées, mais au contraire de donner une perspective et de changer le paradigme de soutien et d'accompagnement en nous permettant de nous prémunir. Et donc il faut accompagner dans ces transitions et dans ces protections un secteur qui reste stratégique pour notre pays.
Et c'est un enjeu économique majeur hein, puisque le secteur des vins et spiritueux français, c'est le second contributeur à la balance commerciale derrière l'aéronautique avec près de 13 milliards d'euros.
C'était un sujet d'Aurélien Fleurot. En Grande-Bretagne, le roi Charles III va reprendre ses activités publiques mardi après l'annonce de sa maladie il y a quelques semaines. Il va tout de même poursuivre ses traitements, mais selon ses médecins, ses progrès sont très encourageants. Retour en France avec cette galère pour les usagers de la ligne à grande vitesse entre Paris et l'Est de la France. La circulation des trains est interrompue depuis la mi-journée en raison d'une rupture de caténaire au niveau de Châlons-en-Champagne. Les TGV entre Strasbourg, Nancy ou encore Metz et Paris sont détournés sur la voie classique, entraînant des retards jusqu'à 2 heures selon la SNCF, 5h30 pour certains trains en provenance d'Allemagne. Attention également si vous devez prendre la route, c'est la fin des vacances ce week-end pour la zone A, bison futé, voie orange ce soir pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et des conseils notamment d'emprunter l'A7 entre Orange et Lyon jusqu'à 22h.
Ça y est, la flamme olympique est officiellement entre les mains de la France.
Une nouvelle étape de franchie vers les Jeux Olympiques à partir du 26 juillet prochain. Après l'allumage de cette flamme à Olympie le 16 avril et quelques jours de déambulation en Grèce, elle a été transmise à une délégation du comité d'organisation de Paris 2024. Geste symbolique réalisé, Martin Lange, lors d'une cérémonie de passation tout aussi symbolique.
Oui, Cédric, notamment avec cette Marseillaise. Alors, est-ce que vous reconnaissez son interprète? Pas facile, hein.
Moi, je le sais parce que j'ai vu la dépêche tomber, mais je vais vous donner le nom.
Oui, donnez-moi le nom, c'est Nana Mouskouri. Exactement, la chanteuse, un trait d'union idéal entre la France et la Grèce. On a aussi vu Gabriela Papadakis, championne olympique de danse sur glace d'origine grecque, elle aussi, porter la flamme. Alors, des symboles, il y en a eu beaucoup cet après-midi lors de cette cérémonie, avec d'abord le lieu, bien sûr, hein, le stade Panathénaïque d'Athènes, pas facile à prononcer, Cédric.
Bravo.
C'est un stade antique qui date du 4e siècle avant Jésus-Christ. Il avait été rénové pour les tout premiers Jeux de l'ère moderne en 1896. Historiquement, c'est là, dans le berceau de l'olympisme, que la flamme est confiée au pays hôte, la France donc. Et c'est là, il y a quelques minutes à peine, que le président du comité olympique grec a confié la flamme à Tony Estanguet. Une passation pleine d'émotions lors de laquelle le patron de Paris 2024 a révélé qui serait le premier à poser le pied sur le sol français avec la flamme le 8 mai prochain.
Mesdames et messieurs, Florent Manaudou aura l'honneur de ramener la flamme en France à Marseille le 8 mai. Le symbole est d'autant plus fort que sa sœur, Laure, était déjà à nos côtés il y a 10 jours à Olympie. Quelle chance d'avoir l'une des plus mythiques fratries du sport français pour cette formidable aventure.
Laure Manaudou, hein, qui avait été une des toutes premières à porter le flambeau à Olympie. Depuis, la flamme a traversé la Grèce. Ce soir, elle dort à l'ambassade de France à Athènes, sous haute surveillance, avant de prendre la mer dès demain. Embarquement à 10h pétante heure française, à bord du Belém, immense voilier qui a la très lourde tâche de convoyer le symbole de l'olympisme jusqu'à Marseille.
Merci Martin Lange. Il y a aussi du foot ce soir, début de la 31e journée de Ligue 1. À 21h, Montpellier reçoit Nantes. Match particulièrement important pour le maintien, puisque les Canaries n'ont que 3 points d'avance sur le 16e et barragiste à l'heure actuelle, Le Havre, qui jouera demain contre le Paris Saint-Germain. Bonsoir Didier Hamo.
Bonsoir.
De boursier.com, le CAC 40 termine la semaine sur une note plutôt positive.
Oui, c'est pas mal. Ça rebondit, comme on dit, après la baisse d'hier. Le marché, en fait, a refait son retard d'hier. Plus 0,89% ce soir, le CAC 40. 8088 points. Les publications de résultats d'entreprise continuent d'animer le marché avec aujourd'hui les très bons chiffres du côté, par exemple, d'Amundi. Le groupe financier a gagné 3%, 65,75 €. C'est encore mieux pour Saint-Gobain, qui grimpe de 7% dans la foulée de ses comptes trimestriels, 75,25 €. Ça remonte un petit peu partout en Europe. Francfort, plus 1,4%. La bourse de Milan, plus 0,9%. Amsterdam gagne 1%. Le CAC 40 en hausse ce soir de 0,89%. 8088 points.
Didier Hamo de boursier.com sur Europe.
Merci Cédric Chasseur. La météo, Mickaël Poteau, c'est un week-end bien nuageux, surtout plus vieux qui s'annonce pour terminer le mois d'avril.
Ah oui,
ça va être très difficile de vous annoncer de bonnes nouvelles côté ciel ce week-end. Alors demain matin, c'est d'abord par l'ouest du pays qui va être concerné par cette perturbation qui va arroser le sud Aquitaine jusqu'à la Normandie en épargnant la pointe bretonne. Deux autres secteurs de forte activité pluvieuse sont annoncés sur les Pyrénées et dans les Cévennes qui sont surveillées d'ailleurs pour les deux prochains jours. Du Massif central jusqu'aux frontières belges, le temps est gris avec quelques averses et le temps est un peu plus clément dans l'Est et en Méditerranée où les espoirs de voir le soleil sont maigres. Espoir réduit à néant l'après-midi. Oui Jacques, je vous l'avais dit qu'il n'y avait pas de bonnes nouvelles. Hein. Avec la perturbation sur l'ouest qui s'étend le long des côtes normandes, qui prend des forces avec des averses de grêle et des coups de tonnerre sur la façade atlantique. Toujours de la pluie sur les Pyrénées et les Cévennes. Ailleurs, des nuages de plus en plus nombreux. Et attention au vent qui va souffler entre 50 et 100 km par heure sur les trois quarts du pays. Les températures, 3 à 13 le matin, 12 à 23 l'après-midi.
Et pour dimanche, rapidement?
Oh bah, météo similaire, mais inversée. Ce sera clément dans l'ouest, mais des trombes d'eau dans l'est et en Méditerranée.
Merci beaucoup, Mickaël Poteau. Les pronostics du Quintet sont à retrouver sur l'application et le site d'Europe 1, ou bien demain matin à 6h10 avec Thierry Léger. Les pronostics, c'est tous les week-ends, samedi et dimanche à 6h10. Dans un instant, le premier invité d'Europe 1 Soir Week-end, l'économiste Norbert Gaillard, dans l'attente du verdict des agences de notation. À tout de suite sur Europe 1, il est 19h15.
Europe 1 Soir Week-end.
À tous les enfants qui ont découvert chez le poissonnier que non, les poissons ne sont pas carrés. À ceux qui posent la question, pourquoi la glace ne fond pas sur les étals? Et à ceux qui se demandent pourquoi on dit moche comme un thon. Mais c'est pas moche un thon. Enfin, pas plus qu'un autre, quoi. Quand on voit la tête de la lotte... Jusqu'à samedi, Intermarché propose la longe de thon saumurée à seulement 13,79€ le kilo. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Transformez en France. Pour votre santé, bougez plus.
Yeah, yeah, wow. Merci ma maman chérie, merci maman, merci. C'est comme ça que je te remercie, je t'aime ma maman, merci.
Menu King Junior, 4€, un jour vos enfants vous remercieront. Et en ce moment, 3 gourdes à collectionner chez Burger King. Menu King Junior avec jouets à 4€, prix conseillé. Remise d'une gourde pour l'achat d'une formule Glouglou, stock limité. Plus d'infos sur burgerking.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Burger King.
Il était une fois, un prince et sa bien-aimée en quête d'une idée pour le dîner. Le nez dans le frigo, ils virent les endives Origine France à 1,95€ le sachet de 1 kg chez Aldi. Et purent ainsi se lancer dans la préparation de petites endives braisées. Eh, voilà, hein, ça fait le job comme on dit. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, offre valable jusqu'au samedi 27 avril. Info sur aldi.fr.
Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Indispensable à notre équilibre digestif, le microbiote joue également un rôle essentiel sur notre cerveau. Mais comment bien le soigner? Traitements et médicaments existent désormais. Le Figaro Santé consacre son nouveau dossier au microbiote. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. J'ai profité de votre offre 2 plus 1 offert sur les perles de lait.
Oh, trop bon ça.
Oui, mais bizarrement, le pack offert est encore meilleur que les deux autres. Vous savez pourquoi?
Ah, ça, c'est juste le goût des bons plans. Du 23 avril au 4 mai, pendant l'opération de super pouvoir d'achat chez Leclerc, le troisième pack offre découverte perles de lait vanille est offert. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Même promotion disponible sur d'autres variétés, modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde? DS Automobile présente le surclassement en DS7 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux? Jusqu'au 30 avril, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS7 Crossback E-Tense hybride rechargeable d'occasion à partir de 390€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Europe 1 Soir Week-end.
18h-20h.
Jacques Serey.
Vous êtes bien sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Le premier invité de ce vendredi soir est un économiste. Bonsoir Norbert Gaillard.
Bonsoir Jacques.
Économiste, consultant indépendant et spécialiste du risque souverain et du risque pays, vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Les agences de notation » aux éditions de La Découverte. Ce soir, juste après 23h, les verdicts tomberont. Les agences de notation Moody's et Fitch rendront leur avis sur la dette souveraine française. Nous avons donc besoin de vos lumières, cher Norbert Gaillard, pour essayer de nous éclairer. D'abord, simplement, Ces agences, Norbert, c'est qui, c'est quoi, comment procèdent-elles ?
Alors, les agences de notation sont des entreprises privées. On peut considérer que ce sont de grosses PME, à peu près. Hein. Elles sont américaines, les plus grosses sont américaines. Et elles existent depuis longtemps, elles existent depuis un siècle. Et elles notent les États en fonction d'éléments quantitatifs et qualitatifs. Donc, les éléments quantitatifs, ce sont les données que l'on connaît, les ratios de dette publique, de déficit public, etc. Il y a également des données qui sont plus politiques, institutionnelles, qui font partie des données quantitatives. Par exemple, on arrive à mesurer assez facilement l'état de droit ou le niveau des libertés publiques dans un pays. Et on a également des données plus qualitatives qui concernent la politique qui est susceptible d'être menée à moyen terme, etc. Et les agences, à partir de ces données-là, également à la suite d'échanges avec les gouvernants, typiquement en France, l'interlocuteur privilégié, c'est le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, eh bien, arrive à établir une note qui est revue tous les 6 mois en Europe et en France en particulier. Voilà.
Alors, revue tous les 6 mois, mais pour bien comprendre, ces agences, en tout cas leurs représentants, ils ont rencontré, ils ont échangé avec Bruno Le Maire ces derniers jours, ces dernières semaines par exemple ?
Oui. Et même on peut dire qu'ils échangent assez régulièrement. En fait, le processus de notation qui intervient donc tous les 6 mois, il est assez bien borné, à savoir que il y a d'abord une visite au sein du ministère de l'économie et des finances avec le ministre, avec les hauts fonctionnaires, et on recueille des informations donc qualitatives, quantitatives, et les agences ensuite, enfin l'analyste en tout cas chargé de noter la France, rentre dans son agence et va établir un rapport. Ça va prendre quelques semaines, et au bout de ces 4 à 6 semaines à peu près, il y a un comité de notation. Donc ce comité de notation, il est intervenu vraisemblablement hier ou avant-hier.
D'accord.
Et à l'issue de ce comité, il y a un vote. Alors selon les cas, il y a entre 3 et 8 analystes qui sont réunis dans ce comité de notation et qui procèdent au vote. Et à l'issue de ce vote, on décide soit de maintenir la note, soit de l'augmenter, soit de la baisser. Et également, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas seulement la note, il y a également la perspective, c'est important. Et il décide également de la perspective, de l'évolution de la perspective, donc elle peut être stable, positive, négative. Et la décision est ensuite transmise donc au principal interlocuteur du pays, donc en l'occurrence le ministre de l'économie et des finances. Il a généralement 24 heures pour faire appel, ou en tout cas essayer, si la note ne lui convient pas, essayer d'avoir une note meilleure, ou en tout cas une perspective qui est plus satisfaisante. Mais le plus souvent, la note reste inchangée, c'est-à-dire que l'appel, entre guillemets, est le plus souvent stérile, et on a très rapidement dans la foulée l'officialisation de la note via le site de l'agence et les médias traditionnels.
Oui, alors là, les principaux critères ne sont pas spécialement à l'avantage de la France. Je rappelle que le déficit public a dérapé à 5,5% du PIB en 2023, au lieu de 4,9%, ce qui a été envisagé par le gouvernement. Qu'est-ce que ça augure, selon vous ?
Alors, effectivement, c'est un dérapage qui est considérable. Hein. Je veux dire qu'on a déjà eu des dérapages par le passé, en particulier en 2020, mais on entrait en récession, la plus grosse récession qu'on ait connue en plusieurs décennies, et c'était attendu. Là, ça nous a plutôt pris par surprise. Un dérapage de 0,6 points de PIB, c'est beaucoup. Et d'ailleurs, Moody's, très rapidement, il y a exactement un mois, a fait une annonce indiquant que le dérapage du déficit budgétaire était quand même assez inquiétant.
Ça donne une première indication de ce qui pourrait tomber ce soir.
Absolument. En tout cas, chez Moody's, il y a une première indication. Il faut savoir que la note actuellement, c'est AA2. avec perspective stable. Et le communiqué d'il y a un mois de Moody's laisse clairement augurer qu'il y aura une décision défavorable ce soir, ça c'est quasiment sûr. Maintenant, reste à savoir si ça sera une dégradation de notes ou une révision de la perspective de stable à négative. Ça peut être les deux à la fois, hein. Mais ça sera vraisemblablement l'un ou l'autre.
Pour Fitch, voilà, pour c'est Moody's. Une autre histoire.
Pour Fitch, c'est un peu différent, parce qu'en fait, Fitch a une note un cran plus bas que Moody's. On va dire que oui, voilà. Donc, on va dire que, pour simplifier, Moody's est à 18 sur 20 et Fitch est à 17 sur 20 pour la France. Et je ne pense pas qu'il y ait un risque de dégradation de la part de Fitch parce que la note est déjà plus basse que Moody's et aussi que Standard & Poor's, qui annoncera son verdict dans un peu plus d'un mois. Et Fitch peut avancer l'argument que la dégradation était en quelque sorte anticipée de sa part. Et donc, je dirais qu'il y a peut-être un risque de passage en perspective négative de la part de Fitch, mais je ne vois pas de dégradation de la part de Fitch. En revanche, concernant Moody's, le grand débat, c'est de savoir si Moody's abaissera la note de la France d'un cran ou révisera de stable à négative la perspective. C'est ça l'enjeu. Si on s'en sort avec deux abaissements de perspective de stable à négative pour Fitch et pour Moody's, on pourra dire qu'on s'en sort plutôt bien.
Il est 19h25 sur Europe 1. Norbert Gaillard, je rappelle que vous êtes économiste. La dette française se situe 22 points de PIB au-dessus de la moyenne de la zone euro. C'est le troisième ratio le plus élevé de l'UE après la Grèce et l'Italie. La question qu'on peut se poser ce soir, avant le verdict de ces agences de notation, c'est est-ce que la France peut être classée au même rang que ces pays, la Grèce, l'Italie ?
Alors, pour le moment, non. Et même, je dirais, à court, moyen terme, c'est très peu probable. Mais c'est une bonne question, parce que les agences, dans leur analyse, procèdent à des comparaisons entre pays, et en particulier entre pays qui ont la même note. Alors vous allez me dire, bon, c'est à peu près logique. En fait, non, parce qu'il y a, il y a tellement de critères que on peut avoir des forces et des faiblesses différentes selon les pays. Le problème de la France, c'est lorsque l'on compare les pays qui sont notés au même niveau, ou par exemple pour Moody's, qui sont notés double A2, c'est-à-dire 18 sur 20, on a des pays qui ont très peu de dettes. Par exemple, on a le Qatar, on a les Émirats Arabes Unis, même on a la Corée du Sud qui sont notés au même niveau et qui ont beaucoup moins de dettes. Alors, la note de la France, et je dirais le point fort de la France par rapport à ces pays-là, c'est un état de droit qui est beaucoup plus fort. Ça compte aussi. Un état de droit qui est plus fort, une stabilité politique et institutionnelle qui est supérieure aux pays que j'ai mentionnés. Également une économie qui est plus diversifiée. Ça, c'est net, en particulier par rapport aux pays du Golfe, même si ce sont des pays qui, petit à petit, arrivent à diversifier leur économie. Donc, on va dire que, très clairement, les indicateurs de dette et les indicateurs de finances publiques sont clairement le talon d'Achille de la France. Et lorsque l'on compare donc avec ces pays-là, on est clairement en position de faiblesse. Et ce qui est intéressant, toujours dans le cas de Moody's, qui est l'agence la plus importante avec Standard & Poor's, c'est que on a un pays qui est par exemple noté un cran en dessous de nous, qui est la Belgique, et qui a un profil assez proche au niveau des indicateurs de dette. Mmh. Et ça paraîtrait assez logique d'être au niveau de la Belgique, c'est-à-dire d'être dégradé d'un cran. Mais bon, il y a différents facteurs qui entrent en ligne de compte, comme je l'ai dit, pas seulement les ratios de dette publique ou de finances publiques. Mais il est clair que c'est cette question du déficit public empoisonne déjà la vie politique, on le voit depuis déjà un certain moment, mais également la qualité de crédit, la qualité de signature de la France. Et justement, le fait d'être aujourd'hui...
Oui, j'allais revenir sur ce point. En quoi leurs verdicts peuvent-ils être déterminants pour notre pays? Pourquoi on y accorde autant d'importance?
Alors, on y accorde peut-être un peu moins d'importance qu'il y a une douzaine d'années. Hein, si on se rappelle, la France qui avait été dégradée, qui avait perdu son triple A en 2012. Ça avait été une affaire d'État. Depuis 2012, les régulateurs américains et européens ont retiré les références aux notations dans les réglementations financières. Donc, du coup, Je dirais que les notations sont certainement moins importantes ou un peu moins d'influence du point de vue réglementaire. En revanche, il faut garder ça en tête.
Les notes sont. Ça peut avoir des conséquences.
Ah oui, ça peut avoir des conséquences, mais ça a des conséquences via, par exemple, typiquement le fait que les grands investisseurs utilisent les notations financières dans leurs règles prudentielles. C'est-à-dire que très clairement, une note qui descend trop bas va provoquer des ventes de la part de l'investisseur. C'est en particulier le cas de, enfin, c'est un risque réel concernant les fonds de pension. Typiquement, les fonds de pension américains qui sont tenus d'avoir typiquement des double A et des triple A. Et si jamais on passait dans la catégorie A, là, ça deviendrait un problème. Et là, on le sentirait, j'ai envie de dire, sur les taux auxquels la France emprunte.
Merci beaucoup, Norbert Gaillard, d'avoir éclairé nos lanternes avant le verdict des agences de notation ce soir. Une pause. Et dans un instant, le grand témoin de l'actualité, Patrick Mahé. Ancien directeur général de la rédaction de Paris Match, le poids des mots, le choc des photos, Match fête ses 75 ans. Patrick Mahé, l'auteur d'un ouvrage publié aujourd'hui, La légende de Paris Match, à tout de suite sur Europe 1.
Tic-tac, 4 jours exceptionnels vous attendent chez Ixina. Durant ces portes ouvertes, Ixina vous offre non pas 150, mais 200 euros par tranche de 1000 euros sur votre cuisine équipée. Pour en profiter, rendez-vous en magasin avant le 28 avril. Ixina, oui à vos rêves. Voir conditions sur ixina.fr.
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, à ce que je vois. Vous faites les stocks.
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben, j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marais traditionnel sur Auchan.fr.
On sort ce soir ? On pourrait aller au ciné, ou aller voir une expo, ou un concert. Ça fait des années qu'on n'en a pas fait. Bon, tu m'écoutes, là ?
Hein, pardon, tu disais ? Excuse-moi, j'étais plongée dans une enquête sur le business des grands chefs cuisiniers. C'est incroyable.
Capital, jamais l'économie n'a été aussi captivante. Capital, premier magazine économique vendu en France. Disponible chez tous les marchands de journaux.
Hé, tu me le prêtes ?
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
Tout est bon ?
Tout est bon dans le jambon de Paris décoiné et dégraissé de chez Lidl, patron. En ce moment, avec l'offre Super Weekend, il y a moins 50% sur le deuxième paquet de 6 tranches, soit 1,30€.
3,91€ les deux ! Ils nous prêtent pour des jambons ?
Ah, c'est un vrai prix tranché, patron. On est mal.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 10,88€ le kilo pour un produit, 8,15€ le kilo pour deux produits. Offre valable jusqu'au dimanche 28 avril. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Bonjour Anne, vous êtes aidante.
Oui, depuis 2 ans, maman est seule et je passe la voir tous les jours pour l'aider et qu'elle puisse rester chez elle.
Parlez-moi d'Intégrance.
Intégrance, c'est la mutuelle de maman et c'est aussi la mutuelle qui prend soin de moi. Entre maman, les enfants, mon travail, ça devient compliqué pour moi. Intégrance nous propose des solutions, ça nous aide beaucoup toutes les deux.
Comme Anne, presque un salarié sur 4 aide un de ses proches et s'expose à un épuisement physique et psychologique. Aidant, senior ou employeur, faites-vous aider. Rendez-vous sur intégrance.fr.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand ?
Désolé, le mouton à 5 pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit.
APEC, donnez de l'élan à votre avenir.
Carrefour.
Quand vous me dites « Le week-end, faut se faire plaisir !»
Je vous réponds que le bon plan du week-end, c'est la bavette de bœuf 3 étoiles à griller, garantie prix le plus bas, à 13,99€ le kilo seulement. Alors, c'est parfait! Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 10 fois la différence. Et c'est jusqu'à dimanche chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Origine Allemagne, Royaume-Uni ou Pays-Bas. Caissette de 800 grammes environ, détails sur carrefour.fr.
Europe 1 soir week-end.
18h-20h.
Jacques Serrey.
Europe 1, il est 19h33 et c'est un réel plaisir d'accueillir dans ce studio une figure, un personnage de Paris Match. Bonsoir Patrick Mahé.
Bonsoir Jacques. Bonsoir les auditeurs.
Je tiens dans mes mains votre livre sorti aujourd'hui aux éditions Plon, La légende de Paris Match, publié pour les 75 ans du magazine, 1949-2024. Match est le témoin privilégié de l'histoire des Français. D'où vous est venue cette idée de retracer la grande histoire de Paris Match au travers de ses plus de 500 pages.
Bah, d'abord, j'ai écrit déjà plusieurs livres sur Paris Match. Donc, ça, et en plus, j'y ai passé à peu près 25 ans. Donc 25 ans, c'est pas mal pour avoir recueilli les témoignages des anciens, des grands anciens, d'avoir les pères fondateurs, notamment Roger Théron, dont on parlera forcément, ou Daniel Filipacchi, Jean Co, tous ces grands noms, les avoir fréquentés assidûment, et les grands reporters, les photographes. Le monde des photographes, c'est un monde extraordinaire à Paris Match. C'était une caste très particulière, enviée de tous ses confrères, évidemment, parce qu'ils avaient d'abord des moyens pour travailler, et ça c'était formidable, et puis qu'ils étaient dans l'ensemble plutôt beaux gosses, bon, et puis ils avaient une ambiance un peu entre eux, ils vivaient entre eux, et presque un peu en meute quand ils sortaient parfois le soir, donc c'était marrant.
Donc vous vous êtes dit, il faut absolument raconter une fois de plus cette histoire et marquer le coup pour les 75 ans, c'est l'idée de ce livre.
Absolument, absolument. J'avais fait aussi les faits divers avec une équipe de Paris Match, j'avais dirigé ce magazine, les grands faits divers, Grégory, Bruyant Artois, etc., dont on parlera aussi sûrement. Mais je me suis dit que pour les 75 ans, quand même... Qu'est-ce qu'on fera dans 75 ans? C'est-à-dire le titre éditorial de Jérôme Béglé qui m'a succédé comme directeur de la rédaction. Là, c'est un point d'ancrage très très important pour les lecteurs de plusieurs générations. Les grands-parents, les parents, nous-mêmes et les enfants. Ça fait le lien des 75 ans.
Et justement, ces 75 ans, quand on les regarde, quand on analyse, vous avez été au cœur du réacteur, entre guillemets, durant plus de 25 ans, vous l'avez rappelé. Quel est le secret, selon vous, de cette longévité de Paris Match, toujours au sommet?
Alors, au départ, dans les années 50, au début, quand il a décollé grâce à Maurice Herzog, qui a planté le drapeau français au sommet de l'Annapurna en 1950, il n'avait pas encore énormément de moyens, mais il avait déjà ce moteur en lui qui en faisait un magazine irrésistible. Et qui s'inspirait au départ du magazine américain Life, c'est-à-dire un magazine Life, la vie qu'on raconte avec des histoires de A à Z. On commence une histoire... et on la termine. Si on la termine pas, c'est que le sujet n'est pas bon. Donc s'il n'est pas bon, et ben ça devient un non-paru. Et c'est aussi pour cette raison que ce magazine a opéré cette magie dans l'imaginaire des lecteurs et des familles qui ne pouvaient plus s'en passer. C'était la télévision avant la télévision.
Justement, c'est les jeunes journalistes que vous avez formés, que vous racontez dans ce livre, vous ont souvent demandé de décrire l'ADN de Match, expliquez-vous, dans votre livre. Cet ADN, il se résume à quoi ?
L'ADN de Match, on m'a posé la question assez souvent, et notamment, vous avez raison de le souligner, en conférence de rédaction. Et donc, j'ai expliqué que l'ADN, c'était une mobilisation d'abord de tous les instants pour concevoir un reportage quand on est reporter. C'est-à-dire ne pas se contenter d'obtenir des photographies sur un sujet photographiable ou de raconter une histoire écrite si elle mérite d'être écrite, mais de pouvoir la composer, de l'écrire comme on écrit un scénario de film. Et donc, c'est une mobilisation de tous les instants de l'esprit pour trouver l'angle d'attaque et l'angle de sortie d'un récit et d'un sujet. Donc, quand on vous remet un sujet en tant que reporter, il faut le bâtir. C'est un acte de construction. Il y a des fondations, il y a un rez-de-chaussée, il y a un premier étage, il y a une toiture, il y a ce qu'on veut mettre autour, et même un jardin, si on veut. Mais c'est une histoire de A à Z. J'ai une anecdote à vous raconter à ce propos qui résume, à mon avis, parfaitement ce qu'est l'ADN de Paris Match et la construction d'une histoire. On avait, au moment du film L'Amant, inspiré du roman de Marguerite Duras, un film de Jean-Jacques Haneau, remarquable d'ailleurs, on avait un sujet exclusif qui composait tout le film. Et alors qu'on avait préparé 16 pages magnifiques, légendées, titrées, chapeautées, Roger Théron, le directeur, soudain crée la stupéfaction à la conférence de rédaction et dit « Mais c'est formidable ce sujet, mais il manque quelque chose. »« Ah bon? Il manque quoi, Roger ?»« Bah, il est où, l'amant ?» Et en effet, il n'y avait rien sur l'amant réel qui avait été celui de Marguerite Duras. Et là, il y a une voix qui s'élève, c'est un rédacteur en chef, Jean Durieux à l'époque, qui dit « Écoutez, Roger, on a un reporter actuellement au Vietnam. On avait un reporter au Vietnam. Il va vous retrouver, l'amant. » Eh bien, il l'a retrouvé.
Et vous avez raconté l'histoire.
Et nous avons publié l'histoire de A à Z. Et pour savoir que c'était vrai, ben, la cerise sur le gâteau, c'est lorsque Marguerite Duras est passée au journal télévisé du soir et qu'elle a dit, vous savez, le film de Jean-Jacques Haneau, moi je ne l'aime pas tellement parce que, franchement, mon amant, il était quand même plus beau que l'acteur qu'il a choisi. D'ailleurs, le voilà. Et elle sort Paris Match qu'elle déploie devant les caméras du JT. Ça, c'est une histoire de A à Z, confirmée en plus par la personne qui était au cœur de l'action.
Vous avez cité Roger Théron. C'est un personnage qui a beaucoup compté pour Paris Match, beaucoup compté pour vous aussi.
Bah d'abord parce qu'il m'a recruté, déjà. Vous savez, il y a des photographes de match qui disaient dans les années 50 que travailler à Paris Match, c'était pas un travail, c'était un rêve. Bien, ce rêve, moi, j'y pensais pas d'entrer à match quand j'étais à France Soir, qui était déjà pourtant un quotidien qui tirait 1 million d'exemplaires par jour en 8 éditions. Et où j'ai rencontré et connu Philippe Labro, par exemple, à France Soir, qui avait fait un scoop extraordinaire, d'ailleurs, sur l'assassinat de Kennedy. Je fais la parenthèse rapide. Il avait quitté un voyage de presse dès qu'il a entendu qu'il y avait eu un meurtre à Dallas, qui était Kennedy, qu'on avait tiré à Dallas. Et il a été présent dans le commissariat de police de Dallas quand on a assassiné sous ses yeux, quand Ruby a tué Harvey Oswald. Il était présent, le seul journaliste français. Quand même extraordinaire. Donc alors, évidemment, être recruté par Roger Théron était au numéro 1 du journal, comme Daniel Filipacchi était au numéro 1 du journal. Puis il y a une petite période, entre 68 et 76, où le journal avait perdu son âme, en essayant d'être un magazine, un peu news, mais pas aussi bien réussi que l'Express ou Le Point, qui donc ne marchait plus. Et quand Daniel Filipacchi a racheté Paris Match, il a fait revenir Roger Théron qui était parti et qui était vraiment l'âme. On dit que c'était l'œil du journal parce qu'il montait son journal comme un film. C'était un peu comme un... On était à Hollywood avec lui. Toutes les photos étaient par terre, il les regardait et au jugé, il savait la photo qu'il allait faire, la couverture, et il savait monter, faire le montage qui est la plus importante des choses dans un film, le montage d'un film. Il savait mettre les séquences, les sections, il savait faire rebondir les sujets. Alors quand un homme comme lui vous appelle au téléphone, enfin sa secrétaire au départ, Christine Ternot, que je cite, parce qu'en plus j'aime beaucoup une phrase d'elle, qu'elle dit « Moi je n'ai jamais été une assistante de Roger Théron, j'étais sa secrétaire, parce que dans secrétaire, il y a secret et se taire ». J'aimais beaucoup cette phrase. Et un jour, j'étais à Glasgow, sur un match de foot, pour le Figaro, j'étais au Figaro à ce moment-là, le téléphone sonne à midi, c'est l'heure où on quitte sa chambre d'hôtel en général, le téléphone, je me dis « Mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de m'embêter à midi, ils sont pas à 5 minutes près ?» Et là, j'entends une voix délicieuse qui me dit « Patrick Mahé, bonjour, ici Christine Ternot, je peux vous passer Roger Théron ?» Alors là, ma valise est tombée directement sur le plancher. J'avais Roger Théron en ligne, qui était déjà un monument de la presse magazine, et qui, de sa voix de bronze, m'a dit « Oui, Patrick, vous rentrez à quelle heure de Glasgow ?» Ben, ce soir, rendez-vous au Fouquet's. Et là, j'ai eu rendez-vous au Fouquet's avec lui. Jean Co était présent, grand écrivain, prix Goncourt, plume incroyable, styliste, hors pair. Et j'ai passé un examen de passage, en fait, j'ai eu mon examen de passage...
Au Fouquet's,
à 18h ou 19h.
De retour de Glasgow.
Incroyable, retour de Glasgow.
D'accord, c'est l'entretien, tout simplement.
Un entretien simple, oui. J'en avais eu un autre Figaro, c'est avec Jean d'Ormesson, mais qui était beaucoup plus formel.
Ah.
Forcément.
Et là, à ce moment-là, parce que vous y revenez dans votre livre, Match, c'est bien sûr un magazine, mais c'est aussi un lieu. Il y a eu plusieurs lieux, plusieurs adresses dans l'histoire de Paris Match. Est-ce que certaines ont été plus marquantes que d'autres ? Est-ce que ça symbolise aussi l'évolution de ce magazine ?
Dans l'histoire de Match, il y a plusieurs adresses importantes. La plus importante, c'est la rue Pierre-Charron. Parce que la rue Pierre-Charron, c'est l'immeuble de la Fondation.
Dans le 8e arrondissement.
Dans le 8e arrondissement. C'était un appartement de 3 pièces seulement. Donc les gens, les jeunes journalistes s'entassaient. Et ils s'entassaient tellement dans l'appartement, d'ailleurs, qu'ils avaient fait du bar de la Belle Ferronnière en bas, leur annexe. Mais c'est une adresse formidable parce qu'elle a marqué plusieurs histoires, notamment une qui est pour moi la plus importante, c'est que Brigitte Bardot, qui avait 16 ans et qui était la jeune fiancée à venir, en tout cas de Roger Vadim, attendait son soupirant, Roger Vadim, qui jouait au poker avec les autres photographes pendant les soirs de bouclage. Elle était donc sur le canapé de l'entrée pendant que Vadim jouait au poker avec les autres photographes. C'était une atmosphère particulière. La rue Pierre-Charron, c'est là que Prouvot avait son bureau. Puis après, quand Daniel Filipacchi a acheté Paris Match en 76, Match s'est déplacé sur les Champs-Élysées. Et là, c'était formidable. C'était un paquebot. C'était un petit paquebot magnifique. Voilà, sur les Champs-Élysées.
Les Champs, et puis jusqu'à aujourd'hui, la rue des Cévennes, ici dans le
15e arrondissement. Et aujourd'hui, la rue des Cévennes qui est teintée d'ailleurs de littérature, avec Apollinaire.
Absolument. Patrick Mahé, on marque une courte pause et l'on vous retrouve dans un instant. Il est 19h43 sur Europe 1. Patrick Mahé, auteur de La Légende de Paris Match aux éditions Plon à l'occasion des 75 ans de l'hebdomadaire. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 Soir Weekend.
Bonjour, c'est Pierre de Villeneuve. Je vous donne rendez-vous dès lundi de 19h à 21h pour Europe 1 Soir, nouvelle formule. 2 heures d'actualité pour préciser, décrypter et débattre de l'information de la journée avec des invités et les voix d'Europe 1.
Europe 1 Soir, présenté par Pierre de Villeneuve.
Alors rendez-vous lundi de 19h à 21h sur Europe 1.
À tous ceux qui aiment les fraises nature et à ceux qui les préfèrent avec du sucre, un filet de jus de citron, quelques feuilles de menthe et beaucoup de chantilly. Bah quoi ? Oui, j'aime vivre et alors ? On a quand même le droit de se faire plaisir de temps en temps, non ? Jusqu'à samedi, Intermarché propose la barquette de 500 grammes de fraises rondes d'origine France à 2,69 euros seulement. Et tous les week-ends, vous avez 10% en avantage carte sur le rayon fruits et légumes.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Soit 5,38 euros le kilo, catégorie 1.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde ? DS Automobile présente le surclassement en DS3 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux ? Jusqu'au 30 avril, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS3 Crossback E-Tense 100% électrique d'occasion à partir de 199 euros par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Alors, ça se passe comment ton boulot chez But ?
Eh ben écoute, c'est juste waouh quoi. Et puis tu vois, génial quoi. Et puis c'est tellement...
Travailler chez But, ça ne se raconte pas, ça se vit. Pour ses magasins et ses dépôts, des centaines de postes sont à pourvoir. De la vente et la logistique jusqu'au management, But recrute dans toute la France. Pourquoi pas vous ? Rendez-vous sur But Recrute.
Enfin, tu vois, quoi !
Enfin, au livre de poche, le thriller ésotérique du duo star Giacometti et Raven. Le Graal du Diable. 1944, des partisans anti-nazis terrorisent la région des Balkans. Tristan Marcas plonge de nouveau dans les coulisses occultes de la Seconde Guerre mondiale, en quête du Graal. Le Graal du Diable, de Giacometti et Raven, au livre de poche.
Europe 1 Soir Weekend.
18h-20h, Jacques Serret.
Et notre invité jusqu'à 20h, c'est une figure de Paris Match, Patrick Mahé, auteur de La Légende de Paris Match aux éditions Plon à l'occasion des 75 ans de Paris Match cette semaine. On va poursuivre ensemble notre entretien jusqu'à 20h et parler surtout des photographes de match. Beaucoup vous ont marqué, c'est d'abord la photo à match qui évidemment...
La photo à match, c'est la locomotive. C'est la locomotive de tous les sujets. Bien sûr, il y a le poids des mots et le choc des photos, selon la célèbre devise, d'accord, qui crée un équilibre, qui crée une harmonie. Mais c'est le visuel qui l'emporte spontanément, avec la technique du chapeau d'écriture court, mais qui dit ce qu'il doit dire spontanément, pour qu'on entre dans l'histoire. La légende photo qui précise les faits, les lieux, les hommes, et après le texte qui raconte la fin, ou qui enjolive même l'histoire. Donc, le photographe a un rôle capital, puisqu'il est leader dans la locomotive. C'est lui qui mène le train, si j'ose dire. Et donc, il y a des photographes extraordinaires. Je vais en citer quelques-uns, bien sûr, puisque vous m'y invitez, et puis ça me fait plaisir. Jack Garofalo, qui fait la couverture du livre, d'ailleurs. C'est un livre, et d'ailleurs, pour la petite histoire, je peux vous dire que c'est son épouse qui l'a pris en photo en train de lire un numéro de match c'est Greta Garbo qui est sur la couverture.
D'accord.
Et voilà, bon, Jack Garofalo, avec qui j'ai fait beaucoup de reportages, notamment en sport, à l'époque où Michel Platini était dans l'équipe de Paris Match, on était ensemble avec lui, et puis il a fait beaucoup de reportages, Jack. Il s'est immergé dans Harlem pendant des semaines. Il a travaillé auprès du Dalai Lama, il a fait énormément de choses. Pedrazzini, qui était l'icône absolue, il n'y a pas un directeur de Paris Match qui n'avait pas sa photo sur son bureau. Pedrazzini, c'est un jeune dieu, un beau mec et tout, il avait tout pour lui. Et il s'est fait descendre à Budapest par les Russes lors de la révolution hongroise. Il a mis une semaine pour mourir. Et la photo symbolique la plus extraordinaire, c'est qu'on lui montre sur son lit de mort les photos développées de son dernier reportage. Et dans le même week-end, Jean Roy, son alter ego qui est à Suez, se fait descendre sur le canal de Suez par les Égyptiens. Et lui, il avait comme carte d'identité une Jeep, et sur cette Jeep, un numéro d'immatriculation, le numéro de téléphone du standard de Paris Match. Donc ça montre l'état d'esprit qui était, dès sa création, état d'esprit du journal Paris Match. Et ça a duré à travers toutes les générations. Et ça continue.
Et ça continue. Patrick Chauvel, par exemple.
Et ça continue. Chauvel, évidemment, voilà. Qui, lui, a fait sa première couverture de match.
À 73 ans.
À 73 ans. Sur Florent
Avec
Pagny.
Avec Florent Pagny.
Qui était son copain, en fait, contre lequel il avait eu un petit bras de fer sur le tournage d'un film pour l'honneur d'un capitaine de Pierre Schoendorfer. Et ils sont devenus extrêmement copains. Et c'est à lui, quand Pagny a été raconté le mal dont il souffre, le cancer qu'il a, qu'il s'est confié. Et Chauvel a fait sa grande couverture.
Des grands photographes, des signatures et des moyens mobilisés sur des événements, des faits divers également, hors du commun. On parlait de cette affaire, de l'affaire du petit Grégory, où là, Match, cette affaire qui a marqué la France entière, Match s'est déployé sur place avec des moyens, on peut le dire, conséquents.
Disons que il y avait deux équipes, en fait. Une équipe de Match, c'est toujours un reporter texte et un photographe.
Qui travaillent en ensemble.
Et là, il y a eu deux équipes. Pourquoi ? Parce que, comme les gendarmes, au départ, avaient ouvert une piste sur l'assassinat du petit Grégory, qui conduisait à la culpabilité virtuelle de Bernard Laroche, et comme, d'autre part, le juge d'instruction avait orienté l'enquête et avait accablé Christine Villemain en l'enfermant, eh bien du coup, on avait deux équipes. Une avec Jean Kerr, figure de tous les grands faits divers depuis l'affaire de Bruyères en Artois, grande figure des faits divers, et Jean-Michel Karadec, un garçon d'excellence qu'on avait recruté après sur un Tour de France cycliste, d'ailleurs, formidable, qui était dans l'autre camp. Mais alors, ce qui se passait le soir du bouclage, c'est que quand ils revenaient des Vosges, de la Vologne, ils arrivaient chacun avec leur vérité. Et leur vérité, c'était granitique dans leur tête. Donc on les débriefait, Patrick Miller, qui était un autre rédacteur en chef, et moi, sur les Champs-Élysées, dans un bar de nuit qui se fermait à 3h du matin, parce que c'était tard, et on les débriefait, et parfois, eh bien, je peux vous dire que les verres de bière, car c'était de la bière mousseuse, volaient. C'était pas marrant, parce que chacun avait sa vérité, ouais. il fallait composer avec les deux. Et on y arrivait très bien, parce qu'on donnait une version A et une version B qui compterait, et comme d'habitude, à l'école de Paris Match, c'est le lecteur qui se fait sa propre opinion.
Alors, les faits divers, mais aussi la politique, les présidents de la République, Paris Match qui révèle notamment l'existence de Mazarine, parce que vous nous dévoilez un peu les coulisses de tout cela dans votre ouvrage. Ces coulisses qui nous emmènent, voilà, vous nous emmenez par exemple au bar de l'hôtel Bristol dans votre ouvrage, dont la publication était restée secrète.
Absolument.
Jusqu'au bout même. Alors, j'ai lu notamment que certains journalistes travaillaient sur un article fictif, on leur avait pas dit. C'est-à-dire que même au sein de la rédaction, l'existence de cette révélation qu'allait faire le journal n'était pas connue au sein même de la rédaction.
Non, pas du tout, bien sûr, puisque en fait, ce sont des photographes qu'on appelle des paparazzi, qui étaient sur la trace d'Isabelle Adjani, qui était en rupture amoureuse, et qui, par une confidence d'une commerçante, se sont trouvés sur la trace, du coup, de Mazarine Pinjot. C'est-à-dire qu'ils ne travaillaient pas du tout sur Mazarine Pinjot, mais ils l'ont vu, donc ils l'ont suivi, et ils ont assisté à ces extraordinaires retrouvailles au restaurant Ludivelec, près des Invalides, entre François Mitterrand et Mazarine Pinjot. Mais après, bien sûr, une fois qu'on a eu les photos, qui étaient exceptionnelles, il y avait aussi la responsabilité de publier. Et là, s'est entamée une négociation entre Franck Thénault, le numéro 2 du groupe, Philippe Aki, et Roland Dumas, pour savoir à quel moment...
De l'Élysée.
Et prévenir l'Élysée. On a fait des tirages photos, en effet. J'ai d'ailleurs été chargé de montrer les photos à Paulette de Crène, qui était secrétaire à l'Élysée, au bar du Bristol, que vous avez évoqué. Et puis, bien, le président, quand il a vu les photos, a donné son feu vert, sans le donner vraiment, mais c'était une manière d'approuver en disant la presse...
Il n'allait pas s'y opposer.
La presse sait ce qu'elle a à faire, donc il n'allait pas s'y opposer. François Mitterrand était en fin de vie, il faut bien le reconnaître, il faut s'en souvenir. Il mettait donc de l'ordre dans ses idées, dans ses affaires, dans sa vie de famille. Et on en a eu le bouquet, en fait, des obsèques quand la famille morganatique était réunie au complet. Voilà, donc voilà comment ça s'est fait. Et vous disiez qu'il y avait des journalistes qui travaillaient sur un autre sujet. Ça arrivait souvent, en fait, au journal, qu'il y ait beaucoup plus de sujets préparés que ceux qui paraissaient. Et je me souviens qu'à un moment, un de nos concurrents, qui vendait deux fois moins ou trois fois moins que nous à l'époque, mais quand même, qui était là et qu'il fallait respecter, on disait, oh, cette semaine, on a de quoi faire un journal et demi, un Paris Match et demi, et si on le rachetait l'autre, ça serait pas mal finalement, on réussirait à placer tous nos sujets.
Et alors, ces rapports, voilà, il y a ces négociations pour des photos cachées, et il y a aussi ces scènes incroyables que l'on peut lire dans ce livre. Il y a ce photographe, autre grand photographe de match, c'est Pascal Rostin, qui se retrouve à un G8 au Canada, et cette scène où avec l'époque Jacques Chirac, 2002,
absolument,
si je ne me trompe pas,
Chirac, ouais. Poutine,
qui se retrouve embarqué comme Bush. Ça, et vous nous faites le récit des aventures de Pascal Rostin au G8, ben oui, au milieu des présidents.
Ben c'est parce que le Premier ministre du Canada, qui était d'origine québécoise, l'avait pris dans ses bagages et l'avait installé, non pas, je ne sais plus quel était le nom de l'endroit, dans l'Alberta, un endroit isolé, et alors que tous les journalistes étaient un peu à l'écart, dans une ville moyenne, lui avait été intégré totalement au voyage et donc a assisté à des scènes hallucinantes. Il a vu Poutine en train de touiller la tasse de café de Bush, par exemple. Il a entendu Chirac parler de football avec le chancelier allemand. Il a vu le Premier ministre du Japon faire une démonstration de la désalutation les plus diplomatiques.
De prosterner presque devant le président américain.
Absolument. Naturellement, il a eu l'intelligence de ne pas diffuser cette photo-là qui aurait pu causer un tort considérable au Japon.
Et il s'en est expliqué avec Jacques Chirac.
Il s'en est expliqué plus tard avec Jacques Chirac qu'il avait croisé ou rencontré à Marrakech. Et il lui a raconté la scène, et Jacques Chirac lui a dit « Rostin, vous êtes un homme épatant ».
Pour terminer, Patrick Mahé, figure de Paris Match, invité sur Europe 1 ce soir.
Je ne suis pas la seule figure, il y en a d'autres.
Il y en a d'autres, mais vous êtes l'auteur de ce livre, La Légende de Paris Match. Pour conclure, comment est-ce que vous voyez les 75 prochaines années de Paris Match ?
Écoutez, on ne peut pas répondre à une question aussi ambitieuse. Je sais que Jérôme, dans son éditorial cette semaine, a dit « Rendez-vous dans 75 ans », c'est magnifique, j'adore cette formule d'ailleurs. Mais le journal, comme tous les magazines, vont évoluer, on le sait, les réseaux sociaux ont changé la donne, Life n'existe plus en tant que presse magazine, mais n'est que sur le digital. En revanche, je pense qu'il y aura toujours et toujours un appétit et une curiosité pour des sujets montés à l'excellence, sérieux, bien ficelés, avec une curiosité et avec aussi toujours un côté pochette surprise. Parce que Match a cet avantage d'être une pochette surprise. On ne sait jamais ce qu'il va y avoir dedans et en fait on n'est jamais déçu parce qu'on trouve toujours la perle rare qu'on ne voit pas ailleurs.
On conclura sur ces mots. Merci beaucoup.
Bonne chance aux équipes actuelles.
Merci beaucoup Patrick Mahé d'être venu dans le studio d'Europe 1 ce soir. Joyeux anniversaire encore une fois à Paris Match. Je rappelle votre livre à retrouver dans toutes les bonnes librairies à partir d'aujourd'hui. La Légende de Paris Match aux éditions Plon. Il est 19h57. L'heure de retrouver un autre Jacques Vendroux dans le studio des Légendes. Bonsoir Jacques.
Bonsoir Jacques Serret. Tout va bien ?
Tout va bien. Quel est le programme ?
Et salutations d'abord à mon ami Patrick Mahé, qui est un ami de 50 ans.
Voilà. Salut Jacques. Tu vas recevoir le livre, Jacques, bientôt. Tu es cité d'ailleurs dedans, avec d'autres légendes de la presse football et sportive.
Et au programme, on va revenir sur le match, bien sûr, du président de la République. C'était mercredi dernier à plaisir, avec Cyril de la Morinerie. Et on va parler du tournoi des Six Nations de rugby, la France, France-Angleterre. C'est demain à Bordeaux. Et donc la France peut gagner le tournoi Destination. Les femmes, bien sûr.
Excellente soirée à vous. Jacques Vendroux sur Europe 1. A tout de suite.
Le délit d'initié est interdit en bourse, mais autorisé et même indispensable pour gagner aux courses. Toujours bien informé, le journal Le Vénard s'engage à rembourser 100 euros par jour à chacun de ses lecteurs si ses pronostics ne sont pas à l'arrivée. Avec Le Vénard, pas de blabla, des résultats.
C'était un communiqué de Thierry Léger, directeur du quotidien épique Le Vénard.
Il était une fois une vaillante jeune fille ayant quitté son sud natal pour étudier. Pour retrouver le bon goût de chez elle, elle croqua dans le nougat de Montélimar, pays gourmand, reconnu saveur de l'année 2024 à 3,19€ les 200 grammes chez Aldi. Et c'était comme à la maison. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, 15,96€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, info sur aldi.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés
et
sucrés.
Entre passé et présent, héritage culturel et création contemporaine, l'artiste Jiang Chong-er réinterprète les traditions chinoises millénaires au musée Guimet.
des installations monumentales et spectaculaires, une réflexion visionnaire sur le temps, un parcours sensoriel et spirituel comme un pont entre la France et la Chine. Gardien du temps, à découvrir dès maintenant au Musée Guimet, avec Europe 1.
C'est si bon.
Charolaise.
Parthenaise.
À l'orléanaise.
À la bolognaise.
À la lyonnaise.
À la mayonnaise.
À la nivernaise.
À la landaise.
À la bordelaise.
À la rochelaise.
À la marseillaise.
À la basquaise.
À la piémontaise.
À la castraise.
Façon Thérèse.
À la française.
Chaud comme la braise.
Chez nous, le bœuf. Qu'il y en a pour toutes les bouches.
Banque coopérative, la Caisse d'épargne Île-de-France, ce sont 5000 femmes et hommes qui œuvrent au quotidien pour accompagner leurs clients et développer une économie durable. Jour après jour, la Caisse d'épargne Île-de-France poursuit sa mission, agir dans l'intérêt collectif et être utile à chacun. La Caisse d'épargne Île-de-France, une banque responsable, engagée au service de sa région.
Il est 20h sur Europe 1, les informations, Cédric Chasseur. Bonsoir, cher Cédric.
Bonsoir, Jacques. Le statu quo à Sciences Po, les étudiants pro-palestiniens font toujours face aux policiers dans le calme. La préfecture de police a demandé en fin d'après-midi l'évacuation de la rue.